Shalom uveracha. Shalom, 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 les koulam. Alors voilà, nous nous retrouvons après une semaine de pause du Tahanit Esther. Eh bien, nous nous retrouvons enfin pour notre étude de la Névoa dans tous ses états. Voilà, j'enlève mon sweat. Hop là, et c'est parti. Yofi. Donc, la Névoa dans tous ses états, les amis, chapitre 25. C'est notre 25e épisode de la Névoa dans tous ses états. Et nous terminons aujourd'hui, Be'sha'atova, nous terminons aujourd'hui Sefer Melachim. Eh oui, voilà, après beaucoup, beaucoup d'études dans le livre de Melachim, Aleph, Melachim Bet, ça nous a repris beaucoup plus de temps que le livre de Yehoshua, Shoftim et Shemuel. Mais là, ça y est, nous sommes dans la fin du Sefer Melachim Bet. Et aujourd'hui, le titre du cours s'appelle « Le dernier roi ». Rien qu'à l'intituler, on sait que ça ne va pas bien se finir. En réalité, effectivement, on connaît toute l'histoire de la fin du Sefer Melachim. C'est une histoire de destruction terrible. Mais notre devoir ce matin va être d'essayer de trouver la tikva, de trouver l'espoir dans cette destruction qui semble être a priori éternelle. Quand on lit le livre de Melachim, la fin, les derniers chapitres du livre, on se dit qu'il n'y a pas d'espoir possible et pourtant nous allons, oui, mettre le doigt sur cet espoir. Donc nous sommes dans le chapitre 24 du livre de Melachim Bet, entre termes, l'avant-dernier chapitre du livre. Alors allons-y. La situation. Petit rappel historique de la situation. Nous sommes dans une condition politique absolument terrible. Yoshiyahu Melech Yehuda a été tué par Paro Necho. Et à ce moment-là, eh bien, la terre d'Israël, que ce soit le nord, à partir, on va dire, de plus ou moins de Megiddo, jusque au sud, c'est sous domination égyptienne. Les Babyloniens sont en train de se mettre en place plus au nord, dans tout le croissant fertile depuis Babylone jusqu'à la Syrie. Ils sont en train de prendre leur position, mais ils ne sont pas encore, eh bien, les patrons de la région sud d'Israël, de la région, en fait, de ce qu'on appelle Eretz Yehuda et la première moitié sud de ce qu'on appelait Eretz Israël, de Mamlechet Israël. Et dans cette situation-là, voilà ce qui se passe. Nous avons un roi à Jérusalem. Nous avons un roi à Jérusalem. Comment s'appelle ce roi? Eh bien, il s'appelle Yehoyakim. Yehoyakim est un roi, comment te dire, pourri. Pourri de chez pourri. Il va être la bête noire de Yirmiyahu Hanavi. Il n'écoute rien, il ne respecte rien. Et il a décidé qu'il referait sienne toutes les perversions de Menaché Melech Yehuda. Et donc, voilà la situation. Beyamav, donc Beyamav de Yehoyakim. Ala Nevuchadnetzar Melech Bavel, Vailo Yehoyakim Eved Shalosh Shanim, Vayashov Veimrod Bo. Alors que, eh bien, Jérusalem était sous domination égyptienne, Nevuchadnetzar arrive, Melech Bavel, roi de Babylone, arrive et va faire de Jérusalem, donc de la région d'Israël, une région sous son contrôle, et donc une région tampon face à l'Égypte. Il faut bien comprendre que entre Babylone et l'Égypte, c'est la les deux superpuissances mondiales, et ça se dispute. Avant, c'était entre la Assyrie et l'Égypte, on avait vu, maintenant c'est Babylone et l'Égypte. Mais qu'ils sont au bout de 3 ans, Yehoyakim se révolte contre Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que ça veut dire, se révolte? Eh bien, il redevient un vassal de l'Égypte. Vaishallah Hashem bo et gedude kesdim vet gedude aram vet gedude moav vet gedude bene amon vaishallachem bi yehuda leavido ki dvar Hashem asher diber biyad avadav hanevi'im. Ach al pi Hashem haita bi yehuda leasir me'al panav bechatot menashe kechol asher asa. Il y a 2 minutes, je venais de vous faire un compte-rendu historique, politique, géopolitique, de pourquoi il y a eu l'arrivée de Nebuchadnezzar, parce qu'il s'est révolté contre lui. Mais Sefer Melachim n'est pas un livre d'histoire. Il nous raconte l'histoire, mais c'est un livre de névoie. Et donc, la névoie se doit également d'être tzodeket et de révéler Mishpat Tzedek. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit ici que si toutes les armées ont asservi maintenant Jérusalem sous la tutelle de Babylone, c'est parce qu'on avait reproduit toutes les erreurs du passé et qu'on était retombé dans la Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, tout ce que tu veux, la Méhadrin. Velo sif od. Veistra. J'ai sauté plein de versets. Achalpi Hashem, donc verset Gimel. Achalpi Hashem, Aïta Biouda la Asir Meal Panav, Bechatot Menashe, Kechol Asher Asa. וגם דם נקי אשר שפר וימלא את ירושלים דם נקי ולא אהבה השם לסלוח כל יסוד דם נקי נודיס חזל כיהויקין אהפה מסקרי תו לכהנים אלה נביאים אלה חכמים כי אתה רסטה פידל הקדוש ברוך הוא donc il y a ici véritablement une notion de tzedek. למה זה חשוב? Pourquoi c'est important que ce verset soit mis en place? Arrête. C'est toujours comme ça. Kadosh Baruch Hu gère son monde tamid par le tzedek. Je rappelle l'enseignement du Ramchal. Nous explique le Ramchal dans son livre Derech Hashem et également Emunot Vedeot. Eh bien, le Ramchal a un concept révolutionnaire, mais un concept très fort dans lequel il nous explique qu'il y a deux moyens pour Dieu de gérer son monde. Il y a ce qu'on appelle Anagat HaMishpat et il y a également ce qu'on appelle Anagat HaYichud. Quelle est la différence? Eh bien, Anagat HaMishpat, c'est la gestion de Dieu du monde de manière générale. C'est-à-dire, tu fais bien, tu fais mal, tu reçois mal. Mishpat. Il y a également une autre Anagat qui s'appelle Anagat HaYichud VeHaMemshala. Anagat HaYichud, c'est Dieu, il a ses comptes à lui. Et des fois, il fait des choses qui nous semblent à nous complètement pas justes, mais c'est son plan à lui. Anagat HaYichud. Maintenant, il est évident qu'il faut de manière générale, que le monde soit géré par Mishpat. Ki be Mishpat ya'amid eretz. Et donc, c'est ma fille qui n'est toujours pas retournée à l'école et j'ai comme l'impression que chaque jour passé à la maison eh bien, est une perte incommensurable de neurones. Et je pense que ma fille est devenue neuneu. Neuneu la méhadrine. C'est-à-dire qu'elle était partie très très haut. Elle était d'une intelligence supérieure. Mais je pense que maintenant, sa capacité cérébrale est arrivée à celui d'un lombric. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un lombric, c'est un ver de terre. Je pense que la capacité cérébrale de ma fille ne dépasse plus celui du ver de terre. Prions ensemble pour que les Kitot Zayin retournent à l'école rapidement. Top. Voilà. Je ne me laisserai pas distraire par sa technique. Donc, c'est très important que le monde soit géré par Anagat à Mishpat. Tov. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est très important de le dire avant ce qu'on va lire, parce qu'on va lire une destruction terrible. Mais savoir en préalable qu'il y a ce qu'on appelle Yesh Din ve Yesh Dayan, eh bien, c'est déjà le début de l'espoir. De dire qu'il y a quelqu'un, Dieu en l'occurrence, qui gère son monde et qui est juste, eh bien, ça veut dire que de la même façon qu'il punit celui qui doit être puni, eh bien, il récompense aussi celui qui doit être récompensé. Et donc, si Am Israël décide de revenir, eh bien, il est également assuré d'un retour de la Hashgacha, d'un retour du dévoilement divin pour lui. Car s'il punit, eh bien, il doit également récompenser. Alors, c'est de cela qu'on parle. On a dit, notre rôle ce soir, enfin ce matin, c'est de trouver les moments d'espoir. Chut. Yofi. Alors, allons-y. ויתר דברי יהויקים וכל אשר עשה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה וישכב יהויקים אבותיו וימלוך יהויכין בנו תחתיו. Alors, Yehoyachin va prendre le contrôle du royaume à la mort de son père, mais il ne va pas régner longtemps. Yehoyachin, c'est quelqu'un qu'on connaît avec d'autres noms. Par exemple, dans la Megillat Esther qu'on a lu la semaine dernière, eh bien, Yehoyachin s'appelle Yechonia. Et voilà ce qui se passe. Velo sifod melech mitzrayim latzet me'arzo ki lakach melech bavel minachal mitzrayim ad nahar perat kol asher haita lemelech mitzrayim. En d'autres termes, eh bien, vous comprenez très bien que à ce moment-là, ça y est, l'hégémonie politique, c'est Babylone. Mitzrayim est reclus au sud et à l'ouest du Nil, du delta du Nil. Donc ils ne sont plus présents ici. Ça y est, tout est sous domination babylonienne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le savoir? Eh bien, pour savoir que lorsqu'il y a Galout, eh bien, c'est une Galout qui est sous une domination. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que, bien sûr que la Galout est terrible, mais la Galout est également là pour nous enseigner quelque chose. On doit sortir de l'exil quelque chose. Et donc, savoir que l'exil est l'exil de Babylone et non pas de l'Égypte et de Babylone, eh bien, c'est pour que nous ayons quelque chose à prendre de Babylone. Eh oui, car, comme vous le savez, chaque exil, eh bien, nous a enseigné quelque chose, puisque nous sommes sortis de ces exils avec ce qu'on appelle l'ikut nitzotzot akedusha. On a dévoilé les étincelles de sainteté qu'il y avait dans les différents exils. Alors, si on devait se poser la question, qu'est-ce qu'on a sorti comme étincelle de sainteté de l'Égypte, lorsqu'on est sorti d'Égypte avec Moshe Rabbeinu? Donc, du point de vue de notre histoire, eh bien, quelque chose comme à peu près il y a 900 ans. Ok, quand on est sorti d'Égypte, eh bien, on a sorti avec nous quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sorti de l'Égypte? On a sorti, en fait, deux choses. De l'Égypte, on a sorti la Chochma. Je vous ramène à ce que Abraham va dire à Sarah lorsqu'il descend en Égypte pour la première fois. Eh bien, il lui dit Imrina Achotiat. C'est-à-dire que Abraham dit à Sarah de dire à l'Égypte, tu es ma sœur. Or, quand on regarde le livre de Michelet, eh bien, on verra qu'il y a marqué là-bas, et mort la chochma achotiat. En d'autres termes, tu es ma sœur, ça se dit à la sagesse. L'Égypte représente la chochma. C'est là-bas qu'était enfouie la chochma du monde, et c'est donc ça que Am Israël a sorti de l'Égypte. Également, on a sorti de l'or, c'est-à-dire les richesses de l'Égypte. Ces richesses, elles sont donc tant au niveau spirituel, la chochma, qu'au niveau matériel. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette chochma et de cette richesse? Eh bien, ça dépend. C'est un peu le propos de notre parasha de cette semaine. Est-ce qu'avec l'or de l'Égypte, on fait le Mishkan ou est-ce qu'on en fait le veau d'or? C'est tout le débat. Donc, de l'Égypte, on a sorti la chochma. De Babylone, qu'est-ce qu'on sort? Eh bien, de Babylone, il va falloir sortir la Kedusha qui se trouve dans la Malchut. Puisque nous dit le livre de Bereshit, Vatehi Reshit Mamlachto Bavel. En d'autres termes, Babylone, c'est la royauté par excellence. La dimension de Malchut est ce qu'on sort de Babylone. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on est sous domination babylonienne, c'est pour apprendre les fondements de la Malchut. Ensuite, lorsqu'on va arriver sous domination perse, c'est ce qu'on a lu dans la Megillah, eh ben, vous n'avez pas, c'est pas très compliqué. Quand on lit le premier chapitre de la Megillah, on se rend compte que le truc persan par excellence, c'est l'opulence. C'est tout le hocher, toute la richesse matérielle. Et donc, c'est ça qu'on va découvrir là-bas en Perse. L'abondance et l'opulence, il va falloir sortir de cela la Kedusha. De la Grèce, qu'est-ce qu'on sort de la Grèce? Eh bien, de la Grèce, on va sortir l'esthétique. C'est-à-dire la capacité de sortir la Kedusha qu'il y a dans la Ma'atefet, dans la coquille extérieure. Torah ta esthetica, c'est la grande chose qu'on a sortie de la Grèce. Et Rome, eh bien, qu'est-ce que Rome a amené au monde? Sinon, Torah ta mishpat. Alors, vous allez me dire, on n'avait pas besoin de Rome pour cela, nachon. Mais Rome a institutionnalisé le mishpat. Et c'est ça qu'il fallait ramener au sein du peuple d'Israël. Donc, nous pouvons voir ici que le fait qu'on soit complètement sous domination babylonienne, eh bien, va faire qu'on va pouvoir se concentrer sur, eh bien, ce qu'on a à sortir de Babylone. Alors, allons-y. Ben 18 shana Yehoyachin bemolcho ושלושה חודשים מלך בירושלים, ושם אמו נחושתה בת אל נתן מירושלים. טוב, il a 18 ans quand il monte sur le trône, et il ne règne que 3 mois, c'est vraiment pas grand chose. Pourquoi il ne règne que 3 mois? Eh bien, regardez. ויעשה רע בעיני השם ככל אשר עשה אביו, בעת ההיא עלה עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ותבוא העיר במצור. ויבוא נבוכדנצר מלך בבל אל העיר, ועבדיו צרים עליה. Nabucodonosor arrive et fait le siège de Jérusalem. Seulement attention, ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas ici du fameux siège de Jérusalem, le dit Tevet, machin, et destruit. Non. Nous sommes 3 ans. Qu'est-ce que je raconte? Nous sommes 11 ans avant la destruction de Jérusalem. Le siège est un siège, on va dire, administratif, qui va durer à peine quelques semaines et qui n'est mis en place que pour préparer l'exil aristocratique. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Voilà ce qu'il se passe. J'arrive au verset Yudbet. ויצא יהויכין מלך יהודה אל מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושריו ושריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו. בשנת 8 למולכו, דו מלך בבל, פעד יהויכין, פסקל הרי ניקו את חומה. ויוצא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה, מלך ישראל, בהיכל השם, כאשר דיבר השם. ויגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה וכל החרש והמסגר, ולא נשאר זולת דלת העם הארץ. ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, ואת נשי המלך, ואת צריסיו, ואת אלי הארץ, הוליך גולה מירושלים בבלה. Voilà. Jérusalem n'est pas détruite. Le Beth Amikdash n'est pas en flammes. Nous avons exilé l'élite juive. Il s'agit de Galout à Elita, de l'exil de l'aristocratie. Seulement, il ne s'agit pas seulement de cela. Et là, nous devons absolument être bien conscients de ce qu'on vient de lire. Cet exil marque le début de ce que on va pouvoir retrouver. Alors je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était le cas à Strasbourg, c'était le cas évidemment à Berlin. Il y a de cela quelques, à peine une centaine d'années. À Berlin, on appelait Berliner la petite Jérusalem. On appelait Sarcelles, encore aujourd'hui, la petite Jérusalem. Il y avait un grand dessin du Kotel dans le centre communautaire de Strasbourg. Pour dire que Yesh Yerushalayim Be'eretz Israël, Aval, Yesh, comme on disait de Vilna. On disait de Vilna que c'était Yerushalayim Shel Lita, la Jérusalem de Lituanie. Mais toutes ces appellations, la petite Jérusalem, Berlin qui est Jérusalem, c'est terrible. Cette conception qu'on peut maintenant créer une royauté juive, une autonomie juive, et un semblant de Jérusalem à l'extérieur de Jérusalem, qui nous paraît tellement, tellement absurde, commence à ce moment-là. L'exil, pour l'instant, est doré. L'exil, pour l'instant, est 5 étoiles. Pour l'instant, lorsque Yehonia arrive à Babylone, il y est emmené non pas avec des chaînes, il n'est pas du tout amené pieds nus et chafouille roche, il y va en tant que roi, en tant que vassal de l'empereur, et il va créer une cour à Babylone, il va recréer la petite Jérusalem à Babylone. Mais attention, une petite Jérusalem avec tous les avantages modernes qu'offre le royaume babylonien et la capitale de l'Empire. C'est à partir de là que pour la première fois, eh bien, tu peux ne plus jamais avoir envie de repartir. Dites-vous bien que lorsque les dix tribus du Nord sont exilées par Sanhérib et sont amenées en exil à Ashour, ils ne sont pas à Ashour. Ils sont tous éparpillés un petit peu partout et là où ils sont, ils ne sont pas chez eux. Lorsqu'on part en Égypte, eh bien, on n'est pas des Égyptiens et on est parqué à Goshen. On est bien content, tu me diras. Mais on n'est clairement pas chez nous. Pour la première fois, Am Israël peut se réinventer une existence à Babylone et être bien. Et attention, hein, le roi, il est d'accord avec l'empereur Nebuchadnezzar, il n'a aucun problème à ce que Jérusalem se reforme à Babylone, si tant est qu'il respecte les lois babyloniennes et qu'ils sont toujours aux côtés de Babylone lorsqu'il s'agira de faire une guerre. Imaginez-vous, on a tous connu ça. Je suis en train de décrire une situation qui s'est passée à 2500 ans, mais on l'a vécu. On l'a vécu, qu'on habite en France, qu'on habite aux États-Unis. Alors, en France, on a un petit peu d'antisémitisme plus qu'aux États-Unis. Donc, prenons l'exemple américain. L'exemple américain, il est terriblement parlant. Aux États-Unis, la majorité... parce que c'est un pays qui est très patriote, et je suis pour le patriotisme, c'est très bien le patriotisme. Mais aux États-Unis, combien d'Américains de confession israélite ont un drapeau des États-Unis à l'entrée de leur porte? Il y a toujours quelque chose qui m'a toujours choqué. Lorsque le rabbi de Lubavitch distribuait des dollars, alors évidemment, c'est pourquoi, la raison numéro un, c'est pour montrer qu'il peut y avoir de la kedusha dans la construction physique du monde. Qu'avec ton dollar, eh ben, avec ton argent, tu peux créer des choses dans ce monde. Eh bien, sache que c'est aussi un moyen de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Que tu ne dévoiles pas que Akadosh Baruch Hu à l'intérieur du Beit HaMidrash, mais tu le dévoiles également dans la construction concrète de ce monde. Donc ça, c'est évidemment un enseignement fondamental du Rabbi de Lubavitch et c'est très important. Mais moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est que bah, les dollars qu'ils distribuent, ce sont des dollars de la Banque fédérale américaine. Seulement, dans le dollar de la Banque fédérale américaine, il y a marqué « In God we trust ». C'est marqué, alors c'est très bien, « Kolakavod ». Seulement, les États-Unis, c'est un pays chrétien. Ce qui veut dire que même s'ils sont à majorité protestante et ils sont peut-être avec une grosse partie évangéliste, ils n'empêchent que dans la conception chrétienne du divin, eh ben, y a quand même une grosse, 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 grosse partie d'Avodah Zara. Puisque quand ils disent « In God we trust », Jésus, il n'est pas loin. Même si c'est vrai que chez les protestants, ce n'est pas aussi poussé que chez les catholiques. Mais c'est quand même terrible de devoir recevoir la bracha du rabbi sur la construction physique de ce monde, représentée par un dollar sur laquelle il y a une phrase ben, qui est induit quand même un peu beaucoup là, à Avodah Zara. Maintenant, en malasot, le rabbi ne peut pas imprimer des billets de banque différents, parce que sinon il va finir en prison. Il ne peut pas se révolter contre les États-Unis. Donc ça veut dire que à partir du moment, et ça a commencé avec Yehoyachin, quand tu es le vassal soumis de la superpuissance du monde, et que tu commences à te recréer une identité autonome, mais chez l'autre, et bien à un moment donné, tu commences à te dire, ben finalement, pourquoi pas? Et voilà la situation. Au final, et bien c'est à partir de ce moment-là que la grande communauté juive de Babylone va se mettre en place. Et on connaît la suite du film. La suite du film, c'est que lorsque arrivera Zerubbabel, et bien personne ne voudra rentrer. Parce que les gens seront bien à Babylone. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire, bien évidemment. Alors, reprenons notre texte. Verset Yud Zayn. Vayamelech melech bavel et matania dodo tartav. qui est maintenant, puisque Yechonia, Yehoyachin est le roi officiel, mais il est maintenant exilé, qui est le remplaçant de Yehoyachin? Matania. Matania, c'est l'oncle de Yehoyachin, donc le frère de Yehoyakim. Il s'appelle Matania. Tov, y'a fait merde. Ça m'a regardé ce qui va se passer là tout de suite. Vamer dodo, Matania dodo, tartar. Vasev et Shemo, Tzidkiyahu. Et Melech Bavel change le nom de Matania et l'appelle Tzidkiyahu. Les amis, quand quelqu'un donne le nom à quelqu'un d'autre, c'est qu'il en prend son contrôle. C'est-à-dire, tu me dois à moi ta royauté. Si c'est moi qui t'appelle Tzidkiyahu, ça veut dire que toute ta réalité, c'est moi qui te l'ai donnée. Agave, entre parenthèses, c'est vrai au niveau des parents et des enfants. Pourquoi les enfants doivent le respect à leurs parents? Parce que leurs parents lui ont donné la vie, tout simplement. Donc ici, Tzidkiyahu, c'est le nom donné par Nebuchadnezzar à Matania. Tant vous me direz, il y a quand même quelque chose de très très positif dans cette histoire. C'est quoi? C'est que là encore, on aurait pu penser qu'il va l'appeler, je sais pas, un nom babylonien. Il l'appelle Tzidkiyahu. C'est non seulement un nom hébraïque, mais c'est un nom qu'il va... Alors, Chazal vont nous dire que Niba velo yadam aniba, c'est-à-dire qu'il est en train de dire quelque chose, il ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il dit. Mais en fait, le nom qu'il donne, c'est justement de montrer que Yesh Tzedek shel Yudke Vavke. Tzidkiyahu. Yahou, la particule Yahou, c'était la particule des rois de Judée particulièrement, également un petit peu des rois d'Israël, mais qui montrait l'appartenance à Yudke Vavke. C'est-à-dire, donc, Tzedek Yahou. Tzidkiyahu. Encore une fois, montrer que même au moment du départ en exil, eh bien, ce n'est pas de Efkerout. Il n'y a pas d'abandon d'Akadosh Baruch Hu. La punition n'est pas aléatoire. La punition, car il s'agit évidemment d'une punition, Mipnei Chataenu, Galinu Me'artzenu, on dit dans la Tfila. Mais s'il y a une justice, s'il y a Din Vedayan, alors il y a Tikva lorsqu'il y aura retour. Il est. Et donc, nous pouvons maintenant continuer. Perek, pasuk yutret, ben 21 shana tzidkiyahu bemolcho, ve'achat esre shana malach birushalayim, v'shem imo chamutal ben yirmiyahu milivna, ve'yasara בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים. כי על אף השם הייתה בירושלים ביהודה עד ישליחו אותם מעל פניו, וימרוד צדקיהו במלך בבל. Alors là, il va falloir comprendre. צדקיהו va régner pendant 11 ans. Et qu'est-ce qui lui prend, alors qu'il s'est tenu tranquille pendant 11 ans, de maintenant vouloir se révolter contre Babylone? Makara. Makara, tu te révoltes contre Babylone? Non, mais t'as guillé, ma taretzini. C'est l'oïgani. Il se révolte contre Babylone pour une raison très simple. Il est maintenant l'opposant politique de son neveu. Car Yehoyachin est maintenant le roi de Galout. Et lui, le roi d'Israël, se remet en avant. Eh bien, cette gavat yechida, cette volonté de dire, mais non, Am Israël, il doit être ici. Asu oset ara b'enei Hashem. Nachon, il ne fait pas la Torah. Et c'est lo beseder. Mais Tzidkiyahu ramène la conscience nationale. Et effectivement, Yehoyachin, on n'entend plus parler de lui. Mais Tzidkiyahu, c'est lui qui va laisser son empreinte indélébile en tant que dernier roi d'Israël. En d'autres termes, il permet de d'éveiller, avant la destruction totale, d'éveiller la conscience nationale. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que s'il n'y avait pas eu Tzidkiyahu et pas eu sa révolte, au final, il y aurait eu l'exil total. Mais l'exil total n'aurait pas eu d'espoir de dire l'an prochain à Jérusalem, puisqu'ils seraient complètement devenus des Babyloniens de confession jérusalémienne. le fait que Tzidkiyahou se révolte contre Babylone, qui va entraîner la destruction de Jérusalem, va également entraîner la flamme du Beth Amikdash, qui partira dans le feu de Babylone, qui va rentrer dans le cœur de chaque juif, qui vont cultiver cet espoir de retour. Alors certains le remettront en pratique, certains attendront 2500 ans pour le mettre en pratique et ne reviendront qu'aujourd'hui, mais cette flamme est toujours là. L'an prochain à Jérusalem a commencé avec la révolte de Tzidkiyahou. Vayi Bishna Perek Kaf Hei, dernier chapitre de Sefer Melachim Bet. Vayi Bishna Tatechit le Molcho Bechodesh Asiri Beesor Lachodesh. בא נבוכד נצר מלך בבל ובכל חילו על ירושלים ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. Il a donc révolté, on a dit, il a régné pendant 11 ans, mais il se révolte la 9e année. Et c'est à ce moment-là, lors de la 9e année du règne de Tzidkiyahou, le 10e jour du 10e mois arrive Nebuchadnezzar et commence le siège de Jérusalem. Le fameux siège, c'est le 10 du mois de Tevet. Zéo. Vatavo Aïr Bamatsor Adashtes Reshana le Meler Tzidkiyahou. Donc c'est un Matsor qui va durer 2 ans et demi. Ah ah! Alors quoi? Betisha la Chodesh. Vayechezak Araav Ba'ir. ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע עיר וכל אנשי המלחמה, הלילה דרך שער בין החומותיים, אשר על גן המלך, וכסדים על העיר סביב, וילך דרך הערבה. רבותיי, on est en train ici de parler du 17 Tammuz. C'est-à-dire que ça y est, nous parlons ici de la destruction de Jérusalem. On nous dit ici que ça se passe Betisha Bachodesh. Bizarre. Moi, je croyais que la première brèche dans la muraille, c'était le 17 Tammuz. C'est le 17 Tammuz ou c'est le 9 Tammuz? Mais c'est Betisha Bachodesh. Bizarre. Alors, on pourrait tout simplement dire que c'est tel que nous explique le Talmud de Babylone, que la destruction du premier temple, la première brèche de la muraille, à l'époque du premier temple, ça s'est fait le 9 Tammuz, et à l'époque du deuxième temple, le 17 Tammuz. Et comme, eh ben, Chazal sont plus proches du deuxième que du premier, eh bien, quand ils ont décrété le jeûne, ils ont décrété le 17. Donc, pour le Talmud de Babylone, il n'y a pas de problème. Mais le Talmud Yerushalmi nous dit quelque chose de terrible. De terrible, mais d'un autre côté, encore une fois, de réconfortant. Puisque nous dit le Rouchalmi, non, non, non. Et le deuxième, et le premier, la première brèche a eu lieu le 17 Tammuz. Ah, Valizi a marqué Teisha. Nous dit le Rouchalmi, Itbalbela anevoa. Itbalbela anevoa. Regarde, entre parenthèses, qui écrit ici? Qui est le Navi qui écrit Sefer Melachim? Eh bien, Chazal nous explique que c'est Yirmiyahu, un avi qui écrit le Sefer Melachim. Et donc, quand on te dit « Itbalbel anevoa », c'est « Itbalbel Yirmiyahu ». Il a voulu écrire 17 et puis il a écrit 9. Ma sipour. Regarde, entre parenthèses, quand on te dit « Itbalbel anevoa », ça veut dire que Yirmiyahu, il écrit sous dictée divine. Donc, ça veut dire que quand on te dit « Itbalbel anevoa », c'est « Itbalbel akadosh baruch hu ». Comment est-ce qu'on peut comprendre quelque chose comme cela? Eh bien, nous dit le Talmud Yerushalmi quelque chose de fantastique. Yirmiyahu, il voulait écrire Betov Betamuz, Tov Betamuz, les soldats sont rentrés dans la ville. Tov Betamuz, c'est 17. La gématria du mot Tov, c'est 17. Itbalbelu ve Betov, il a écrit tête, et Itbalbel, c'est resté tête, qui est 9. Et c'est devenu Tisha. Mastomaret. Dit le Talmud, Machal le ma davar domé, le meler shaya asuk bektivat cheshbonot, venoda shebenomet, itbalbel veta bacheshbonot. On dit, c'est l'exemple, de, la parabole de quelqu'un, d'un roi qui est en train d'écrire ses comptes, et au moment où il écrit et fait ses calculs, on lui annonce que son fils est mort. Et ça le perturbe tellement qu'il écrit un mauvais calcul. Sauf que là, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, on a dit tout à l'heure qu'il y avait Tzedek. Mais tout ne peut pas être Tzedek. Il y a une autre Mida qui s'appelle Mida Tarachamim. Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui ressemble, qu'on puisse lui ressembler. Mais là, nous sommes en train de dépeindre, eh bien, la Shevira, la destruction, la brisure par excellence. Comment est-ce que quelqu'un de brisé, moi, Am Israël à cette époque-là, peut m'attacher à Dieu qui est Shalem par excellence? Et donc, Akadosh Baruch Hu, qui a envie qu'on soit toujours capable de se relier à lui, eh bien, nous fait un geste, nous fait une fleur, et dit, ma ani rachum, afatat yeh rachum, ma ani chanun, afatat yeh chanun. Mais là, puisque toi tu es brisé, je vais me faire keil ou briser moi aussi, pour que tu puisses toujours te ressentir en contact avec moi. Ainsi, la Shrina a joué keil ou elle est bebulbelet et brisée, pour que Am Israël ne se sente pas abandonné, même pendant la période de l'exil. Non seulement Yesh Tzedek, donc Tikva, et en plus de ça, il y a, eh bien, un lien permanent, quelle que soit notre situation. Vebakair, vecholan sham milchama, laila derech shar ben achomotaim. אשר על גן המלך וכזדים על העיר סביב וילך, וילך דרך הערבה וירדפו חיל כזדים אחר המלך והשיגו אותו בערבות יריחו וכל חילו נפוצו מעליו ויתפסו את המלך ויעלו אותו אל המלך, אל מלך בבית, סליחה, ריבלטה וידברו איתו משפט ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עיוור ויעשרהו בנחושתיים והביאהו בבלה. Finalement, Tzidkiyahu essaye de s'enfuir. À la fin des combats, ils ont perdu complètement. Ils vont rattraper Tzidkiyahu. Il voulait s'enfuir dans des tunnels pour rejoindre Yericho. Il va se faire rattraper à Yericho. Et voilà, aujourd'hui, à Jérusalem, un endroit qu'on appelle Meharat Tzidkiyahu, la caverne de Tzidkiyahu, comme si c'était par là qu'il s'était enfui. Semble-t-il que non, mais la Malo, pour le touriste, ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, cette caverne d'ailleurs de Meharat Tzidkiyahu est une caverne assez impressionnante à visiter. Il faut savoir que c'est l'un des sièges des francs-maçons. C'est-à-dire que les francs-maçons, une fois par an, si je ne me trompe pas, font une grande cérémonie dans la Meharat de Tzidkiyahu, qui en fait n'est pas de Tzidkiyahu. Mais Zélo Rachouf. Quoi qu'il en soit, tous les enfants de Tzidkiyahu vont être tués devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la royauté de Tzidkiyahu semble être complètement anéanti. Mais oui, car ce n'est pas lui le véritable successeur de David. Eh non, c'est Yehoyachin. Et ses yeux ont été crevés, il devient aveugle. Mazé, il devient aveugle. Lorsque tu ne peux plus voir, eh bien, tu ne peux plus donc te projeter vers l'avenir. Il semblerait que cet espoir de nationalisme, on lui a ôté la possibilité de se projeter. Et vous comprenez pourquoi celui qui va des années et des années plus tard, celui qui est capable de ramener la vue à Am Israël, eh bien on va l'appeler le José à Medina, celui qui a vu la possibilité de recréer un État. Binyamin Zeev, Herzl Kamouvan. ובחודש החמישי ובשבעה לחודש איש נת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל בא נבוזראדן רב הטבחים עבד מלך בבל ירושלים וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בית ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש. יראה נדיר. La destruction de Jérusalem. La destruction du Beth Amikdash רבותיי. La destruction de toute maison qui pouvait prétendre au titre de grande maison à Jérusalem. Quand on se balade, Bezrat Hashem, très très vite, d'ailleurs, entre parenthèses, mesdames, si vous êtes vacciné et tout ça, je vous rappelle qu'on peut recommencer, particulièrement dehors, à se rebalader et à retiouler. Donc, je vous invite à réfléchir à la possibilité, comme par exemple, fin de cycle de Sefer Melachim, pourquoi ne pas aller faire un petit tioul dans les rues de Ir David. Voilà, je balance l'idée, on en reparlera sur notre groupe WhatsApp. Quoi qu'il en soit, quand on va à Ir David, eh bien, on va dans ce qu'on appelle Shetarji, un endroit à Ir David, où on a retrouvé là-bas, eh bien, les vestiges de cette fameuse Srefa, de cet incendie de la ville. Puisqu'on a retrouvé dans ce qu'on appelle aujourd'hui les archives royales, une pièce, une chambre avec deux colonnes comme ça, qui était certainement les archives royales, puisqu'on a retrouvé là-bas près de 200 boulottes, des sceaux qui ont été fossilisés, car chauffés à très haute température, et qui sont devenus pratiquement de la pierre. Eh bien, ces sceaux qui ont été datés au carbone 14, qui nous amènent directement au mois de Av de l'année -586, donc l'année de la destruction du Beth Amikdash et du Temple et de Jérusalem, eh bien, sur ces sceaux, on peut lire certains noms qui sont parmi les acteurs de cet événement. Par exemple, on y retrouvera le nom de Baruch ben Neria, le scribe de Jérémie, de Yirmiyahu Hanavi, qui va lui dicter, Jérémie lui dicte la Megillat Eicha et lui écrit. Bekitsur, ve'et chomot Yerushalayim saviv nitatsu kol chel kasdim asher rav tabachim, ve'et yeter ha'am anisharim ba'ir, ve'et anofelim asher naflu al ha'melech bavel, ve'et yeter ha'mon egla nevuzaradan rav tabachim. ומדלת הארץ השאיר רב הטבחים לקורמים וליוגבים. Il ne reste pratiquement plus personne en Israël. ואת עמודי הנחושת אשר בית השם, ואת המכונות ואת ים הנחושת אשר בבית השם, שיברו כסדים ועשו את נחושתן בבלה. On est en train de parler des dernières bribes de ce qui restait du Beth Amikdash de Shlomo. זהו. ואת הסירות ואת היעים ואת המזמרות ואת הכפות ואת כל כלי הנחושת אשר ישרתו בם לקחו. ואת המחתות ואת המזרקות אשר זהב זהב ואת כסף כסף לקח רב הטבחים. On est en train de passer en revue le pillage de Jérusalem. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? À ce moment-là, il reste encore des Juifs en Israël. Là, une grande majorité a été envoyée cette fois à Babylone, mais cette fois, pas l'élite, pas avec le kavod, mais couvert de chaînes. Couvert de chaînes. Mais à ce moment-là, Ve'aham anishar verset kavbet, Ve'aham anishar be'eretz Yehuda, asher ishir nevuchadnetzar melech bavel. Pourquoi est-ce qu'il laisse des gens là-bas? Parce que maintenant qu'il a explosé tout le monde, qu'il n'y a plus de velléité de rébellion, eh bien, il faut quand même avoir une population qui continue à faire tampon face à l'Égypte. Donc, il laisse des gens là-bas. Ve'am anishar ba'aretz be'eretz Yehuda asher ishir nebuchadnetzar melech bavel ve'afked aleihem et Gedaliahu ben Achikam ben Shafan. Le gouverneur d'Israël devient Gedalia. Gedaliahu ben Achikam ben Shafan. Shafan, on connaît. Il faisait partie des hauts ministres et des hauts fonctionnaires de l'État sous Yoshiyahu déjà. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une famille qui n'est pas la famille royale, mais qui est une famille de très hauts employés de l'État. En d'autres termes, c'est un régent. Gedalia est censé apporter un petit peu de calme dans cette histoire-là. וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח וסריה בן תנחומת אני תופעתי ויעזניהו בן מאחתי המה ואנשיהם וישבה להם גדליהו לאנשיהם ויאמר להם אל תראו מעבדי הכסדים שבו בארץ ועבדו את המלך בבל ויטב לכם. Mais c'est qui ces gens-là qui viennent se présenter devant Gedalia? Et Gedalia leur dit, si vous servez Babylone, on va pouvoir se reconstruire. ces gens-là, à leur tête se tient Ishmael ben Netanya. Ishmael ben Netanya ben Elishama Mizera Amelucha. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte que là maintenant le roi d'Israël, alors il y en a un en exil, mais le roi d'Israël ici, le chef d'Israël, il n'est pas roi, Gedaliah n'est pas roi, mais il est le gouverneur. Il ne fait pas partie de la famille royale. C'est la première fois depuis David que quelqu'un va gérer Jérusalem, ça fait 500 ans. Et il n'est pas de la famille royale. Et Ishmael ben Netanya, lui, vient de la famille royale. Alors, pas de David. Non, il ne vient pas de David. Il ne vient pas de David puisqu'il vient d'une branche beaucoup plus ancienne lorsqu'il y a eu la machloquette entre Ram et Salma, c'est-à-dire entre les premiers, les premières phases de la royauté après Yehuda. Eh bien, il y a des enfants qui ont été mis de côté, qui n'ont pas été les enfants qui ont amené la Melucha. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, Gedaliah ben Achikam, Ishmael ben Netanya, il a un problème parce que son arrière, qui devait être le roi d'Israël, qui devait être, pas le roi parce qu'il n'y avait pas encore de royauté, mais qui devait être la branche par laquelle devait passer la royauté, eh bien, nous dit Razal que son ancêtre et a donné sa fille à un esclave. A donné son fils à une esclave. Et en faisant cela, eh bien, il s'est enlevé la possibilité d'être la dynastie royale. Parce que ça ne se fait pas que le roi sorte d'un mariage avec une esclave affranchie. Et donc, eh bien, cette partie de la famille a été un petit peu frustrée pendant toute la période de David. Maintenant que les descendants de David sont en exil, eh bien, Ishmael ben Netanya dit, s'il y en a bien qui doit prendre le pouvoir, c'est moi, et pas Gedaliah. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vayaku et Gedaliah vayamot. Vayat ayudim vayat akasdim asher ayu ito bamitzpah. Vayakumu kol ha'am mikaton vayat gadol vesarei ha'chayalim vayavou mitzrayim ki yaraou mipnei kasdim. Et oui, à partir du moment où ils ont tué Gedaliah, tous les rescapés s'enfuient en Égypte parce qu'ils se disent, c'est sûr, les Babyloniens vont revenir et vont, eh bien, châtier tous ceux qui sont restés ici. Que les choses soient bien claires. Suite au meurtre de Gedaliah ben Achikam, eh bien, la tradition d'Israël a décrété un jeûne, le jeûne de Gedaliah. Quand on tue un dirigeant d'Israël, ça mérite de faire un jeûne. Même si tu n'es pas d'accord avec le dirigeant. Donc, à mon sens, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Après l'assassinat de Yitzhak Rabin, eh ben on aurait dû décréter un jeûne national. Et pourtant, j'étais absolument pas d'accord avec Yitzhak Rabin dans Shum Davar de ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Mais il est le représentant du peuple juif. Il est hors de question d'aller l'assassiner. Et donc, eh bien, on aurait dû faire ça. Pour l'instant, pour plein de raisons, je sais pas, la Rabbanout, elle a pas encore décrété ça. Moi, personnellement, je pense qu'il faut encourager cela. Qu'à chaque fois qu'on arrive au jeûne de Gedaliah, eh bien, qu'on associe également le meurtre de Yitzhak Rabin au meurtre de Gedaliah. Comment est-ce qu'on se relève après ça? La destruction de Jérusalem semble totale. Totale. Que faire maintenant? Eh bien, voilà ce qui se passe. ויהי בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה בשנים עשר חודש בעשרים ושבע לחודש נשא אוויל מרודח מלך בבל בשנת מלכו את ראש יהויכין מלך יהודה מבית הכלא. Lorsqu'il y avait eu de nouveau les révoltes contre Nebuchadnezzar, Yehoyachin n'était plus en bonne grâce à Babylone parce que ton cousin, regarde ce qu'il fait, ton oncle. Mais lorsque Nebuchadnezzar meurt et que Eval Morodach prend le pouvoir après lui, eh bien, Yehoyachin redevient un copain. C'est bien, c'est pas bien. Alors, personnellement, pour lui, c'est très bien. Pour nous, eh bien, ça remet le judaïsme de Galout en haute estime. Mais est-ce que c'est bon pour nous ou est-ce que c'est pas bon pour nous? וידבר איתו טובות ויתן את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבלה ושינה את בגדי כלאו ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו. Il a invité à tous les repas officiels, à l'Élysée, à Washington. וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מאת המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו. On est en train de nous dire que Yehoyachin, maintenant Yehonia, est redevenu persona grata. Il était devenu non grata, mais maintenant il est redevenu grata. Et il est un invité de marque. Un invité de marque à la cour du Meler Bavel. Qu'il le respecte, qu'il comprend que c'est un allié, qui lorsqu'il va l'inviter à manger, l'a fait venir des repas cachers. Si bien que Yehoyachin va commencer à dire qu'on peut tout à fait être juif à Babylone. Le livre de Melachim s'arrête sur la chute de la royauté juive sur Eretz Israël et peut-être encore pire, sur ce tableau qu'on peut maintenant se revendiquer juif à Babylone. Pourquoi est-ce que Yirmiyahu termine son livre de Melachim sur cette réalité où on peut se sentir juif à 100% à Babylone et être au top? Eh bien, pour que tu comprennes quel est le véritable danger de l'exil. Oui, de Babylone, on a dit, il fallait sortir la notion de malchoute. Bien sûr. Mais il y a toujours un grand danger à l'exil, qu'il soit le danger de l'exil de l'Égypte, celui de Babylone, de la Perse, de la Grèce ou de Rome. Le danger restera toujours l'assimilation culturelle, qui amènera à l'assimilation physique. Le livre de Melachim, qui s'est ouvert sur la dynastie de David, se ferme sur cette aberration qui s'appelle le judaïsme de Babylone. Je dis aberration et j'utilise un terme violent. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va tellement marcher que lorsque 70 ans plus tard, un descendant de David reçoit la permission des nations de revenir en Israël et est accompagné par un prophète qui dit que Dieu est d'accord avec le processus, eh bien la majorité des Juifs décide de rester à Babylone. Parce qu'ils se sentent désormais babyloniens. Lorsque Herzl écrira son projet, eh bien, il écrira dans son journal que son idée de créer un pays pour les Juifs ne peut pas marcher avec les Juifs de France. Incroyable. Il écrit ça à Paris. Il dit parce qu'ils sont trop bien à Paris. Malgré l'affaire Dreyfus, ils sont trop bien à Paris. Donc, ils ne viendront pas. Aujourd'hui, on pourrait transposer ça aux Juifs d'Amérique. Mais n'ayez aucune crainte. Au final, Akadosh Baruch Hu, Yesh Tzedek. Et il va ramener son peuple. Le livre de Melachim s'arrête sur une page douloureuse et sur un espoir brisé. Mais la suite chronologique du Sefer Melachim, la suite directe de Melachim n'est autre que Haggai, Zecharia et Malachi. Haggai est celui qui nous ramène de l'exil. Zecharia est celui qui va nous donner les névoot de Géoula après l'exil. Et Malachi n'est autre que Mordechai à Yehudi, qui après l'histoire de Pourim raccompagne le peuple juif sur sa terre en disant « Ine anochi » Sholeach lachem et Elia Navi. Le livre de Melachim s'arrête dans la douleur. Le livre de Yirmiyahu s'arrête dans la douleur. Mais nous dit, cette douleur n'est pas éternelle. Al tidagu. Viendra un jour où on en reviendra de cet exil. Viendra un jour où Zéhu, on reviendra. On reviendra. Après 70 ans, le processus de retour est mis en place. Ce processus commence avec Zerubbabel en tout petit, grandit un peu plus avec Ezra et Nehemia, grandit encore plus avec les Hashmonaïm, et atteint son idéal aujourd'hui, avec un retour incroyable du peuple juif qui revient en terre d'Israël et qui en fait réalise les paroles de Yirmiyahou et vient écrire les dernières lignes qu'on aurait voulu voir marquées dans le livre de Melachim, eh bien, Am Israël aujourd'hui écrit ces dernières lignes qui ramènent l'espoir à sa place avec le retour de la royauté d'Israël à Jérusalem. Shabbat shalom et à bientôt les amis.